vous invite à tourner avec moi dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Philippiens. On va continuer finalement l'étude qu'on a commencée. On va la lire en français courant pour ce matin. On va lire à chapitre 1, les versets 12 à 18. Versets 12 à 18. Frères, je veux que vous le sachiez. Ce qui m'est arrivé a contribué en réalité à la progression de la bonne nouvelle. Les versets 12 à 18, ce matin, frères et sœurs, ce sont des passages qui, j'espère, qui vont stimuler votre foi, qui vont vous permettre aussi de vous remettre en question par rapport à votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. On est avec quelqu'un ici ce matin qui a écrit ces passages, qui a écrit cette épître, quelqu'un qui est en prison. Il est emprisonné pas pour le mal qu'il a fait, il est emprisonné pour le bien qu'il a fait. Il dérange le monde autour de lui. Et finalement, il nous dit au verset 12, « Frère, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a contribué en réalité à la progression de l'Évangile, c'est-à-dire à faire en sorte que l'Évangile progresse. » Alors, il dit, « Je suis en prison, mais c'est bizarre, mais c'est pour la gloire de Dieu. Je suis en prison et l'Évangile progresse. » Extraordinaire, non? On devrait s'attendre à ce que quelqu'un qui soit en liberté dise, « Gloire à Dieu de me garder libre, Seigneur, dans ce monde où je peux proclamer l'Évangile, où je peux voir l'Évangile prospérer. » Il dit non, je rends grâce à Dieu de ce qui m'est arrivé parce que ça a contribué à faire en sorte que l'Évangile progresse. Quel chrétien, frères et sœurs, et quel modèle pour nous? Parce que souvent, on regarde Jésus-Christ, on dit, oui, mais ça, c'était Jésus qui a fait ça. Oui, mais ça, c'est Jésus qui a dit ça. Oui, mais ça, c'est arrivé à Jésus, ça. Oui, mais là, on est avec un être humain. Quelqu'un qui a persécuté l'Église. Quelqu'un qui a participé à un meurtre. Qui a bénéficié finalement de la bonté, de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu, et qui est devenu l'apôtre Paul. Et là, il est en prison. Et là, on dit que cette épître, c'est une épître de joie. À travers ses écrits, il va stimuler le peuple de Dieu à dire, allez de l'avant, peu importe ce qui vous arrive, allez de l'avant, c'est pour la gloire de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, frères et sœurs, ça s'adresse aux chrétiens. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui obéissent à Dieu. Le mot aimer est synonyme ici d'obéissance. On ne parle pas des abus de toutes sortes qu'on peut avoir eu dans le passé. On n'est pas capable de dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On n'était pas chrétien. Mais à partir du moment où on est chrétien, qu'on est convaincu que Dieu tient notre vie entre ses mains, on est capable de dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Paul dit, c'est ainsi que toute la garde du palais et tous les autres savent que je suis en prison parce que je sers le Christ. En me voyant en prison, la plupart des frères ont gagné en confiance dans le Seigneur, de sorte que de plus en plus, ils osent annoncer sans crainte la parole de Dieu. Écoutez, si le diable a permis, si le diable a utilisé l'arrestation de Paul pour freiner l'élan d'évangélisation des chrétiens de l'Église de Philippe, Paul, à travers son témoignage, à travers ses paroles d'encouragement, à travers ce qu'il diffuse à l'extérieur de la prison, il dit, « Hey, avez-vous ce que ça a fait? » Ça a stimulé le corps de Christ à aller de l'avant et à partager la bonne parole du Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai que certains d'entre eux, verset 15, « prêchent le Christ par jalousie à mon égard dans un esprit de dispute, mais d'autres le prêchent en de bonnes intentions. Ceux-ci agissent par amour car ils savent que Dieu m'a confié la tâche de défendre la bonne nouvelle. » Les autres annoncent le Christ non pas avec sincérité, mais dans un esprit de rivalité. Ils pensent augmenter mes souffrances pendant que je suis en prison. Peu importe que leurs intentions soient mauvaises ou sincères, le Christ est de toute façon annoncé, et je m'en réjouis, et je continuerai même à m'en réjouir. Prions. Seigneur Jésus, merci pour la joie communicante de l'apôtre Paul. Merci, Seigneur, pour ce zèle, peu importe où il se trouve, à annoncer, Seigneur, la bonne nouvelle qui concerne la personne de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce qu'il est capable de dire, Seigneur, que, Seigneur, tu vis en lui et que tout ce qu'il cherche, Seigneur, c'est vraiment de partager cette bonne nouvelle. Seigneur, que nos yeux, ce matin, puissent réaliser combien tu veux nous utiliser, nous qui sommes tes enfants, sauvés par pure grâce. Nous qui méritions d'être condamnés, Seigneur, tu nous gracies. Nous qui méritions d'être traités comme des malfaiteurs, Seigneur, tu nous traites comme des saints. Seigneur, je veux te louer ce matin pour cette parole que tu nous as laissée, pour cette parole encourageante, qui nous rappelle, Seigneur, que c'est toi qui veux agir à travers tes enfants pour bénir, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous enseigner ta vérité ce matin. Seigneur, ouvre ma bouche afin que par ton Saint-Esprit, Seigneur, eh bien, nous puissions recevoir ce que tu as réservé pour chacun d'entre nous. Et tout cela, c'est pour la gloire de ton nom que nous te prions. Amen. Amen. Les chrétiens de Philippe sont impatients de recevoir des nouvelles de Paul, mais ce qui est frappant, c'est de voir Paul, c'est de voir que Paul ne leur écrit pas pour leur parler de ses problèmes. Il veut plutôt les encourager et leur parler de ce que Dieu fait à travers les problèmes qu'il vit. Le verset 12, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Il ne veut pas leur donner des nouvelles sur sa santé, mais plutôt leur donner des nouvelles concernant l'Évangile. Et les mots qu'il utilise sont très forts, parlent très fort, parce qu'il ne veut pas qu'ils passent, que les chrétiens de Philippe passent à côté d'une vérité qu'il s'apprête à leur enseigner. Et cette vérité, elle est la suivante ce matin. Le plan de Dieu s'accomplit souvent à travers nos problèmes. Le plan de Dieu, frères et sœurs, s'accomplit souvent à travers nos épreuves. Amen. Parce que quand tout va bien, souvent le Seigneur n'est pas capable d'accomplir son plan puisqu'il n'est pas le premier dans nos vies. Mais lorsque survient des problèmes dans nos vies, lorsqu'on commence à passer par des moments difficiles, lorsque c'est la perte d'un emploi qui est en jeu, lorsque c'est la perte de la santé qui est en jeu, qu'est-ce qu'on fait? Oups! On se retourne tout de suite vers lui. Et là, on fait le ménage. Et là, Dieu peut redémarrer, recommencer à accomplir son plan dans notre vie. Et à travers la souffrance, il veut nous amener à l'obéissance. Tournez avec moi dans Hébreux chapitre 1. Est-ce qu'on a vu ça? Peut-être mercredi soir. Je vais mettre mes lunettes pour le trouver. Hébreux chapitre 5. Verset 7, verset 8. C'est simplement pour vous montrer que Jésus n'a pas été épargné comme nous ne serons pas épargnés. Ce n'est pas parce que c'est Jésus que Dieu a fait une grâce particulière à Jésus. Regardez ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ici. Verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire, c'est lui qui, alors qu'il était homme, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications, c'est-à-dire à Dieu, puisque c'est celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Donc, les commentateurs font référence à cette prière, ils la placent plutôt dans le jardin de Gethsémané. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Frères et sœurs, Jésus est exaucé parce qu'il était Dieu, non? À cause de sa piété. C'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit. Il a été exaucé à cause de sa piété. Et il a appris, bien qu'il était fils, l'obéissance à travers les choses qu'il a souffertes. Dans son 100% homme, Dieu n'a pas épargné Jésus. Il a appris dans son 100% homme à obéir. Il a reçu, il a été exaucé dans ses prières à cause de sa piété. Frères et sœurs, avez-vous la conviction dans votre cœur ce matin que Dieu veut faire la même chose avec vous et avec moi? Oui, hein? La même chose. Dieu veut exaucer nos prières. Pourquoi? Pour qu'on puisse le glorifier. C'était le thème ce matin. Il fait chaud ici, hein? Je vais en ouvrir un autre parce que... Ceux qui ont froid, on peut mettre 2-3 chaises en avant pour venir me rejoindre. c'est pas le sauna en avant, mais c'est pas loin. Hein. Voilà. Et il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Extraordinaire la parole, ce qu'elle nous dit ici. Il est devenu pour nous l'auteur d'un salut éternel. Jésus-Christ a dû apprendre l'obéissance à travers ce qu'il a souffert. Dieu exauçait Jésus-Christ à cause de sa piété. Et ici, Paul, eh bien, il nous dit que le plan de Dieu, lorsqu'il va nous annoncer ce matin, que le plan de Dieu s'accomplit souvent à travers nos problèmes. Paul sait très bien dans quelle situation il se trouve, mais au lieu de faire la liste de tous ses malheurs, comme la plupart d'entre nous serions tentés de faire, il va résumer simplement tout ce qu'il a vécu dans ces quatre mots, « ce qui m'est arrivé ». Et les Philippiens étaient bien conscients de ces difficultés. Paul n'avait donc pas besoin de les énumérer. Mais qu'est-ce qu'il a vécu pour avoir fait le bien? Frères et sœurs? Rappelez-vous dans Actes, rappelez-vous ce qu'il a vécu, Paul, pour avoir fait le bien. On n'a pas le temps de tout énumérer, mais dans Actes chapitre 21, 22, 23, 24 et 25, il est emprisonné pour avoir annoncé l'Évangile. On complote pour le tuer. Le capitaine doit venir avec ses soldats pour le retirer de la foule avant qu'on le tue. Et on va le mettre en prison. Et parce qu'il va faire appel à César, eh bien, il va quitter l'endroit pour se rendre à Rome. Et ça faisait partie du plan de Dieu. Il est donc transféré en Italie. Le temps qu'il est transféré en Italie, il va subir un naufrage épouvantable. Vous vous souvenez de ces passages-là, oui? Et comme bénédiction, quand il arrive sur la plage, il veut se réchauffer parce qu'ils sont trempés, ils sortent de l'eau. Et là, il y a une vipère qui mord à la main. Et tout le monde pense qu'il va mourir. Frères et sœurs, celui qui prêche l'Évangile, qui vous dit que vous ne serez jamais malade, que vous n'aurez jamais de problème, vous pouvez lui dire que ça, ce n'est pas l'Évangile de Jésus-Christ. Moi, j'ai vécu des problèmes en tant que chrétien. Moi, j'ai été malade en tant que chrétien. Paul a vécu des affaires épouvantables en tant que chrétien. Moi, j'ai été persécuté aussi en tant que chrétien. On a sali ma réputation en tant que chrétien. La vie chrétienne, frères et sœurs, elle n'est pas facile, mais c'est la plus belle de toutes. C'est la plus belle de tout. Pourquoi? Parce que Dieu est de votre côté. Si Dieu est pour vous, qui peut être contre nous? Quand vous avez saisi la réalité de la vie chrétienne, peu importe ce que vous vivez, vous pouvez rendre grâce à Dieu. Même si vous ne comprenez pas en prière, vous êtes capable de dire, « Seigneur, je ne comprends pas. » Mais je te rends grâce parce que toi, tu sais où tu t'en vas, alors que moi, je cherche encore où je m'en vais. Mais je sais, Seigneur, que tout concourt à mon bien et que le but pour lequel tu m'as permis de naître de nouveau, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Et Seigneur, je te fais confiance dans la méthode que tu utilises pour moi. La méthode qu'il va utiliser pour moi, elle va être différente de la méthode qu'il va utiliser pour vous. On est des êtres différents, on est des êtres uniques. Chacun est unique aux yeux de Dieu. Et il n'y a pas de jardin secret avec Dieu. Je chante un beau cantique tantôt, hein, qui fait référence à un psaume. Hein. Sonde-moi aux yeux, connais mon cœur, regarde si je suis sur le chemin de l'éternité. Oui, sonde-moi, Seigneur. Ça veut dire quoi? Moi, j'examine mon cœur, mais Seigneur, va en surface, démine, Seigneur. Sonde, Seigneur, et mets en lumière ce qui ne va pas avec toi. Mets en lumière ce qui pourrait m'empêcher d'être exaucé dans mes prières. Mets en lumière, Seigneur, ce qui fait une barrière, qui a une forteresse en avant de moi et en avant de toi, Seigneur, qui m'empêche de te voir tel que tu es et de pouvoir me réjouir comme l'apôtre Paul. Tandis que Paul pense à tout ce qu'il a vécu, il en arrive rapidement à la conclusion que tout ce qui lui est arrivé a contribué au progrès de l'Évangile. Et le mot « progrès » ici est un terme militaire qui signifie « faire avancer ». Alors Paul dit « tout ce qui m'est arrivé, frères et sœurs, ça a contribué à faire progresser, à faire avancer l'Évangile. » Pardon. Malheureusement, souvent on ne voit pas les choses de la même façon que l'apôtre Paul. Souvent on voit nos épreuves et nos difficultés comme étant des obstacles dans notre vie chrétienne. Pourquoi? Parce que souvent, notre plan est différent du plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore souvent compris que c'est Dieu qui mène la barque. Pourquoi? Parce qu'on a souvent on a oublié de réaliser que c'est Dieu qui nous appelle à un endroit bien spécifique, dans un ministère bien spécifique pour sa gloire à lui. Et que ce n'est pas à travers nos capacités naturelles qu'il veut nous utiliser, mais à travers nos dons spirituels. Dans mes capacités naturelles, frères et sœurs, je suis très honnête, je n'ai pas besoin de Dieu, hein? Mais je n'ai pas besoin de Dieu. Je suis prêt même à dire à Dieu, écoute, Seigneur, regarde-moi comment je vais t'épater, quoi. Pourquoi? Parce que ça fait 64 ans que j'ai des capacités naturelles, que je les connais, et que la plupart du temps, eh bien, je ne trébuche jamais dans ces capacités naturelles. Mais dans les dons spirituels, je reconnais que c'est ce don-là vient de Dieu. Et je reconnais que c'est Dieu qui va agir à travers moi dans ce don qu'il m'a donné. Et je suis obligé de m'en remettre entièrement à lui. Pourquoi? Parce qu'à travers le don spirituel qu'il m'a donné, il veut se glorifier et il veut aussi que le corps de Christ puisse être glorifié et loué, le beau nom de Jésus-Christ. Le fait que Paul est en prison et tout ce qui lui est arrivé constitue pour lui un moyen de présenter l'Évangile dans un endroit où il n'aura pas pu le faire autrement, frères et sœurs. Et il est capable de louer le Seigneur. Moi, j'en reviens pas. Moi, en tout cas, je prie le Seigneur de m'éviter la prison. Mais Paul a compris que le fait qu'il ait été arrêté, qu'il se retrouve à Rome, c'était le seul moyen pour lui d'atteindre un groupe de personnages bien particuliers. Bien particuliers. C'est les soldats d'élite qui étaient là. Et frères et sœurs, nous sommes appelés, lorsque nous vivons des circonstances difficiles, voire même menaçantes pour nos vies, à imiter le comportement de Paul et chercher à savoir comment Dieu peut travailler dans de telles circonstances pour faire avancer l'Évangile, soit dans nos vies ou dans la vie des autres. Un exemple classique de la façon dont les problèmes et même la persécution peuvent être utilisés pour faire en sorte que les desseins de Dieu s'accomplissent se trouve dans Actes chapitre 8, verset 1. Rappelez-vous d'abord dans le premier chapitre, au verset 8, Jésus, eh bien, donne l'ordre à l'Église d'aller porter l'Évangile en dehors de Jérusalem. Frères et sœurs, s'il n'y a pas de persécution à ce moment-là, l'Évangile, elle risque de mourir à Jérusalem. Nous, on regarde ça de l'extérieur, on se dit, ça n'a pas de sens, Seigneur, on t'appartient, on a donné notre vie, on a quitté la religion juive pour devenir des chrétiens, et Seigneur, tu fais en sorte qu'on soit persécuté. Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. À vue humaine, c'est comme ça qu'on raisonne. Mais le Seigneur, il voit que les chrétiens sont en train de s'installer à Jérusalem, ils sont bien, ils sont dans leur confort. Et qu'est-ce qu'il dit? Attends un peu, je vais les secouer. Ils provoquent une persécution. Et qu'est-ce qu'ils font? Là, ils doivent se répandre, ils sont obligés. Sauf les apôtres, nous dit le texte biblique. Sauf les apôtres, les chrétiens quittent tous Jérusalem pour s'en aller en Samarie, pour s'en aller en Judée. Et si vous lisez le texte biblique dans le livre des Actes, partout où ils passent, ils annoncent l'Évangile. Et là, il y a des poches de chrétiens qui se mettent en place. Il y a des églises qui commencent à prendre racine. Et là, le Seigneur, eh bien, la parole du Seigneur s'accomplit. Et frères et sœurs, si en Europe on a l'Évangile aujourd'hui, si dans d'autres endroits on a l'Évangile aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une persécution au début de l'Église chrétienne. Parce que Dieu a permis à travers cette persécution aux chrétiens de se répandre à travers tout l'Empire. Amen. Mais à vue humaine. « Oh, mais Seigneur, je pensais, moi, que je serais en paix, moi, en acceptant Jésus, je n'avais plus rien à faire. Et pourquoi, Seigneur, que je tombe malade? Pourquoi, Seigneur, je suis persécuté? Pourquoi, Seigneur, je fais de la prison? » Qu'est-ce que le Seigneur dit? « Si je n'ai pas épargné mon fils, je ne t'épargnerai pas non plus, puisque je ne fais pas de favoritisme. » Si vous lisez les Épîtres, vous allez découvrir que Paul était impatient d'annoncer l'Évangile à Rome. Actes chapitre 1, verset 15, il dit, « J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Mais le désir de Paul ne correspondait pas au plan de Dieu. Il va finalement se rendre à Rome, mais pas de la façon qu'il avait prévu. Chers amis, rien n'arrive sans raison dans la vie d'un chrétien. Dieu veut que nous voyions toutes choses à la lumière de son plan en regardant à travers les lunettes de l'Évangile. Dans l'esprit de Paul, le but ultime de Dieu, c'est que l'Évangile progresse. Il était capable de tout interpréter en regardant le monde à travers les lunettes de l'Évangile. Et frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut nous amener à faire. C'est ce qu'on essaie de faire le mercredi soir. C'est ce qu'on essaie de partager le jeudi aux réunions de prière. Dieu veut la seule solution pour que ce monde puisse être rétabli. C'est que l'Église puisse annoncer l'Évangile. Il n'y a pas d'autre moyen. Et j'espère que vous avez une certitude. Moi, ça me fait rire quand j'entends parler que l'islam est puissant. Oui, l'islam est puissant. Oui, l'islam est puissant pour une seule raison, parce que l'Église est devenue impuissante. L'Église baigne dans le compromis. Les chrétiens dorment dans leur confort. Les chrétiens gardent l'Évangile pour eux, alors qu'ils devraient adopter la philosophie de Paul, aller prêcher l'Évangile à toutes les nations. On n'a pas besoin d'envoyer des missionnaires à l'extérieur, frères et sœurs. La Belgique, c'est une terre missionnaire. L'Europe, c'est une terre missionnaire. S'il y a des églises qui ferment, c'est en Europe. S'il y a des chrétiens qui diminuent, c'est en Europe. Maintenant, je ne suis pas en train de vous condamner, je m'intruis là-dedans. On vit dans un monde confortable. Et c'est un des ennemis de l'Église, le confort. Pourquoi? Parce qu'on garde nos yeux fixés sur ce qui est visible et non plus sur ce qui est invisible. Il pourrait être utile pour nous ce matin de nous poser la question de quelle façon cette épreuve ou cette difficulté que je traverse maintenant peut me disposer à présenter l'Évangile à quelqu'un. Je ne me glorifierai pas, hein, parce que ce n'est pas une gloire, je connais la raison pourquoi je suis tombé malade d'un cancer. Mais quand je suis allé à l'hôpital, au grand hôpital de Verviers, et que je suis rentré dans l'aile des cancéreux, mon cœur a été touché parce qu'on était en ligne à l'extérieur de l'aile et on attendait une place pour recevoir notre chimiothérapie. On était en ligne comme quand tu es en ligne pour aller acheter de la viande et, ou n'importe où quand tu dois te mettre en ligne pour prendre un ticket. On était comme ça, quoi. Hein? On attendait que notre prescription parte d'en bas, monte en haut, puis là, on recevait notre dose pendant 7-8 heures dépendant de la dose qu'on vous avait prescrite. Et là, moi, ce que je faisais, ils ne pouvaient pas me traiter de prosélytisme, m'accuser de prosélytisme. Moi, ce que je faisais, j'étais malade. Je faisais les chambres avec Lise, et on partageait l'Évangile avec les malades. Ouais. Les gens venaient se faire enlever un poumon, qui était taillé jusque dans le dos, et qui était sur la chimio, en permanence, qui avait une bouteille ici, qui retournait à la maison le soir avec une bouteille remplie. D'autres, on leur parlait, disaient, je vais m'en sortir. L'orgueil. Du non-croyant, je vais m'en sortir. Et je pouvais proclamer l'Évangile. Et je loue le Seigneur d'être tombé malade à ce moment-là parce que je n'aurais jamais pu aller proclamer l'Évangile dans cet hôpital. Et il y a des gens qui ont été touchés. Il y a des gens qu'on les a référés à des églises. Frères et sœurs, de quelle façon une épreuve ou une difficulté que vous traversez peut vous disposer à présenter l'Évangile à quelqu'un? C'est une pensée assez radicale, n'est-ce pas? Pourtant, Dieu contrôle toutes choses, les bonnes comme les mauvaises, pour notre bien ultime et pour sa gloire. Au lieu de nous concentrer sur nos problèmes, fixons nos yeux sur les desseins de Dieu pour nos vies. 1 Corinthiens, chapitre 10, 13, je ne le lirai pas, mais le Seigneur, il dit qu'il n'y a aucune épreuve qui nous envoie qui soit au-delà de nos forces. Et que l'épreuve que vous subissez, Dieu a déjà la solution pour vous en libérer. Alors, par la foi, on dit, Seigneur, je te fais confiance. Fais confiance. Verset 13. Notre but ultime consiste à partager l'Évangile autour de nous, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons. Paul jugeait tout en fonction des priorités de l'Évangile et en prison, il trouvait là son but à l'autre bout de ses chaînes. Et comme résultat, il va dire, toute la garde du palais et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est parce que je sais Christ que je suis dans les liens. Alors que Paul est enchaîné à un garde 24 heures sur 24, il va utiliser toutes les occasions qui se présenta à lui pour prêcher l'Évangile. Le prétoire ou la garde du palais, dépendant de votre version, était composé de soldats d'élite hautement qualifiés, choisis un par un pour faire partie de ce corps d'élite. Ils étaient un croisement des services secrets de César et les forces spéciales de l'armée. Ils étaient payés le double de ce que les autres soldats recevaient comme salaire. Et ça va peut-être vous envier, vous allez peut-être les envier, mais après 12 à 16 ans de service, c'est des gens qui pouvaient prendre leur retraite. Intéressant ça, non? Donc, on parle de 67 maintenant, 70 ans. Après 12 à 16 ans de service, c'est des gens qui pouvaient prendre leur retraite. Avec le temps, ils sont devenus une puissance politique à Rome, puisque quelques-uns servaient au Sénat de Rome et ils avaient des contacts avec les sénateurs. Si vous y réfléchissez bien, frères et sœurs, comment Paul aurait-il pu atteindre autrement ce groupe de gens? Il était enchaîné à un garde 24 heures sur 24. Comme il y avait un garde, là je vais vous faire faire des mathématiques, comme il y avait un changement de garde tous les 6 heures, Paul était capable de partager l'Évangile avec, merci, avec 4 différents soldats durant la journée. Ce qui signifie, pendant la semaine, 28 soldats. Durant la semaine qu'il avait été enchaîné après l'apôtre Paul. Et pendant les 2 années qu'il est emprisonné, il a pu toucher 3000 soldats. Il n'aurait jamais pu le faire en liberté. Extraordinaire le plan de Dieu pour Paul. Hein? Mais ce qui est intéressant, c'est Philippiens chapitre 4, verset 22. Il dit qu'un grand nombre de ces soldats d'élite avaient accepté l'Évangile. Des gens qui étaient tout près de l'empereur. Des gens qui pouvaient être présents au Sénat. Des gens qui sont devenus chrétiens et qui pouvaient, à partir du témoignage, à partir de leur conversion, eh bien, rendre témoignage à la personne de Jésus-Christ. Frères et sœurs, imaginez que vous êtes un de ces soldats que vous regardez, Paul. Ça devait être terrible hein, au début pour les soldats. Je m'essaie de me faire une image. Hein. Alors, tu es enchaîné avec un soldat 24 heures sur 24. À tous les 6 heures, on change de... C'est ça, hein? Merci. Merci, Calvin. À tous les 6 heures, on change de soldat. Imaginez que vous êtes un soldat que vous ne regardez pas en train de prier sans cesse. Hey, mais attendez prier, hein? Parce qu'il dit, moi, je prie sans cesse. Ensuite de ça, il rencontrait des gens. Parce qu'à un moment donné, il était en surveillance, il était dans une résidence surveillée. Écrire des lettres. Et que vous regardez Paul et que vous l'entendez témoigner de ce que Christ a fait dans sa vie. Vous n'avez pas le choix. Autant lui, il ne peut pas se sauver, autant vous, vous ne pouvez pas vous sauver puisque vous êtes attaché avec lui. Vous vous dites, soit cet homme est fou, ou ce Jésus dont il parle avec tant de force, il l'a rencontré et il est vivant. Je veux avoir l'assurance de la vie éternelle. Je veux avoir, recevoir ce que Paul possède en lui. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que nul n'ignorait que c'est pour Christ qu'il était dans les chaînes. Et que dans Philippiens 82, il peut dire qu'un grand nombre des soldats d'élite, eh bien, de César avaient été, s'étaient convertis. Permettez-moi de vous poser quelques questions ce matin. À quoi ou à qui pensez-vous être enchaîné au moment où je vous parle? Est-ce à votre travail? Vous pouvez vous plaindre des conditions dans lesquelles vous vous trouvez? Ou vous pouvez être un agent de changement pour le Christ et avoir comme but de partager l'Évangile avec ceux avec qui vous êtes en contact. Peut-être que vous vous sentez enchaîné à vos enfants. Au lieu de vous plaindre d'eux, ne serait-il pas préférable de leur communiquer l'amour de Dieu et de vivre de façon à ce que l'Évangile soit crédible à la maison? Peut-être que vous vous sentez enchaîné ce matin à votre passé, alors que vous revoyez toutes les mauvaises choses que vous avez commises. Eh bien, c'est le temps pour vous de permettre à Dieu d'utiliser ses expériences pour venir en aide à quelqu'un. Vos mauvaises expériences ne sont jamais, jamais perdues en Jésus-Christ. Souvent, les expériences que vous avez passées qui vous ont fait mal en Jésus-Christ vont vous aider. Lorsque vous rencontrerez des gens qui vivront les mêmes expériences que vous avez vécues, eh bien, vont vous aider à pouvoir proclamer l'amour de Jésus-Christ parce que vous pouvez leur dire, écoute, moi j'étais comme toi et voici ce que Jésus a fait dans ma vie. Voici comment Jésus m'a transformé. Et il peut faire la même chose pour toi. Peut-être que vous vous sentez enchaîné à cette église et que vous vous plaignez que les choses ne sont pas mieux ou que vous vous demandez pourquoi les choses ne sont pas différentes des autres églises. Dans son livre intitulé « La vraie vie d'un pasteur », Gordon Atkinson écrit « Je garde des emails de ceux qui m'écrivent. Votre église est vraiment bien. J'aimerais trouver une église comme la vôtre, pasteur. » Écoutez comment il leur répond. « Laissez-moi deviner. Vous êtes à la recherche d'une église décontractée, remplie de chrétiens authentiques qui n'ont aucun esprit de jugement, mais qui ont des convictions et qui sont bien équilibrées. » Une église où les gens se pardonnent les uns les autres, aiment les enfants et adorent Dieu de façon différente. Amen. Amen. Qui lève la main là-dessus? Je suis tout seul? Une église où la parole de Dieu est honorée et où les gens, tout en étant quelquefois en désaccord, continuent à s'aimer les uns les autres et à partager leur vécu autour d'une bonne tasse de café. Ah, qui pour la tasse de café? Une église où les gens sont consacrés à Jésus-Christ et qu'ils le montrent d'une manière pratique et créative en partageant l'Évangile avec les gens de ce monde. Il continue. C'est ce que vous recherchez. Je comprends. Voici quelques conseils qui pourront vous aider dans votre recherche. Et là, il donne des conseils en tant que pasteur. Vous trouverez nulle part cette église, à moins que vous commenciez à mettre en pratique ce que vous recherchez pour vous-même. Car vous aurez fréquenté des gens ordinaires, des gens qui commettent encore et toujours des erreurs par leurs agissements et qui font des erreurs de jugement. Mais tout cela peut changer. Philippiens, chapitre 2, verset 4. Tout cela peut changer. Philippiens, chapitre 2, verset 4, ceux qui ont leur Bible. Tout cela peut changer. Si au lieu de chercher votre propre intérêt, vous considérez ceux des autres. Amen. Amen. Ça rentre directement avec le deuxième commandement que Jésus nous a donné. Aime ton prochain comme toi-même. Aie le même intérêt pour les choses de ton voisin qu'il ait les mêmes intérêts pour tes choses à toi. Fais à ton prochain ce que tu voudrais qu'il te fasse. La Bible ne dit pas, après que ton prochain t'ait aimé, tu vas commencer à l'aimer. Le Seigneur dit, aime ton prochain comme toi-même. Extraordinaire, n'est-ce pas? Dans les commandements de Dieu, on dit ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Jésus, lui, il change les normes. On est sur la grâce maintenant. Fini les ne fais pas, ne fais pas. Maintenant, tu vas faire. Tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Maintenant, vous voulez voir comment la grâce, elle est, c'est une chape de béton sur celui qui ne vit pas? Jacques, chapitre 4. Là, je vais aller dans la seconde. Frères et sœurs, Jacques, chapitre 4, regardez ça. Hey, sous la grâce, on se glorifie, on se bombait la torse en disant, « Seigneur, me dites pas voler, je ne vole pas. Seigneur, me dites pas mentir, je ne mens pas. » C'est vrai ou c'est pas vrai? Et là, on se dit, « Je m'accumule des points pour entrer au ciel. Je m'accumule des points pour entrer au ciel. Je m'accumule des points pour entrer au ciel. » Là, je tombe sous la grâce. Et sous la grâce, si on n'est pas né de nouveau, si on est incapable d'obéir à ses commandements. Jacques, chapitre 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Quand tu vois un pauvre, mon frère, ma soeur, et que tu sais que tu dois lui venir en aide et que tu ne lui viens pas en aide, la parole est claire, tu commets un péché. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est ce que Jésus a mis en pratique. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Et ce qu'il a enseigné, il l'a vécu, il l'a mis en pratique. Mon frère et ma soeur, à chaque fois, si tu es né de nouveau, je ne parle pas des religieux parce que vous êtes incapables d'obéir à ça. Je parle de ceux qui sont nés de nouveau. À chaque fois que tu sais que tu devrais faire le bien, que tu ne le fais pas, la parole de Dieu dit que tu commets un péché. À chaque fois que tu devrais prier pour un frère dans le besoin, que tu ne pries pas pour lui, tu commets un péché. Et c'est exactement ce que le prophète Samuel dit. Je n'arrête pas de pécher pour le peuple, je n'arrête pas de prier pour le peuple de peur de commettre un péché. Il avait compris ce principe-là, le prophète Samuel. Frères et sœurs, la parole de Dieu. Et Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose qu'on est incapable de faire. En Jésus-Christ, pour tous ceux qui sont nés de nouveau, en Jésus-Christ, tout est possible à celui qui croit. Amen. Quelle est ta relation, mon frère et ma sœur, avec le Seigneur ce matin? Est-ce que tu fais le bien que tu devrais faire? Ou tu passes la main à quelqu'un d'autre et tu commets un péché? Est-ce que Jésus-Christ est au centre de ta vie ce matin? Ou si tu baignes dans le compromis? Et que tu portes un masque, tu es malheureux quand tu rentres dans l'église, et bien c'est le gros sourire, Pierrot qui rit, Pierrot qui pleure. Le Seigneur, ce n'est pas un sourire dans ton visage qui veut t'accrocher, mon frère et ma soeur, ce matin. C'est dans ton cœur qu'il veut te donner un sourire. Il veut t'inonder de sa joie, il veut t'inonder de sa paix. Quand vous lisez la parole de Dieu, que vous regardez dans quel état se trouve l'apôtre Paul, vous vous dites, ce bonhomme-là, il est fou. Il est sous des médicaments, ce n'est pas possible d'être joyeux en prison. On n'est pas à Lantin, on n'est pas à Peuvre. Hein? Il n'y a personne qui est enchaîné 24 heures sur 24. Hein? On est avec un gars qui doit attendre la nourriture de ses amis. S'il n'y a pas de nourriture, il crève de faim. On est à une époque où si les amis ne viennent pas lui porter des vêtements, ce gars-là va vivre tout nu dans sa cellule. Hein? Il est enchaîné 24 heures sur 24. Et à un moment donné, il est capable de dire, écoute, toutes les églises m'ont oublié. Toutes les églises m'ont abandonné. Sauf vous, chers frères et sœurs de Philippe. Sauf vous, vous avez compris l'Évangile. Vous ne me devez rien. Ce n'est pas parce que je vous ai amené au Seigneur que vous me devez quelque chose. Vous ne me devez rien. Mais je rends grâce à Dieu de la bonté que vous manifestez envers moi. Paul était enchaîné, mais il savait que la parole de Dieu n'était pas enchaînée. Et peu importe où il se trouve, il va prêcher l'Évangile. Après un court laps de temps, il était devenu évident que ce n'était pas Paul qui était enchaîné aux gardes, mais plutôt les gardes qui étaient enchaînés à Paul. Le fait qu'il soit incarcéré lui donnait l'opportunité d'annoncer l'Évangile de façon audacieuse. Un pasteur appelait ça une réaction en chaîne, qui s'est répandue comme une traînée de poudre à travers ces groupes d'élite. Paul était enchaîné, mais il savait que la parole de Dieu n'est pas enchaînée, je le répète. Frères et sœurs, on a tous un rôle à jouer dans l'Église. Et je ne suis pas en train de taper sur les personnes âgées qui n'évangélisent pas. Je ne suis pas en train de faire ça. Les personnes âgées, ceux qui ont de la difficulté à se déplacer, vous avez le rôle le plus important. Celui de soutenir dans la prière ceux qui sortent. Celui de soutenir dans la prière ceux qui ont des contacts avec des non-chrétiens pour qu'ils puissent leur parler ouvertement de Jésus-Christ. Vous avez le ministère le plus important dans l'Église. Sans la prière, on ne peut rien. Il y en a une que j'encourage à chaque fois que je vais la voir, c'est ma sœur Stacha. Pourquoi le Seigneur ne me reprend pas? Pourquoi le Seigneur ne me reprend pas? Parce que le Seigneur veut que tu continues à prier, Stacha. On manque d'hommes et de femmes dans l'Église de prière, des femmes et des hommes de prière. Vous avez le ministère le plus important. Mais pour les autres, je peux vous dire ceci. Vous ne pouvez pas avoir la joie du Seigneur et la paix du Seigneur si vous ne partagez pas l'Évangile, ce que vous avez reçu de Jésus-Christ. Et maintenant, je vais être très direct ce matin. Si vous ne partagez pas l'Évangile de Jésus-Christ, c'est peut-être parce que vous n'avez jamais rien reçu de lui. Alors le Seigneur fait grâce aux uns et résiste aux orgueilleux. S'il y a d'autres choses qui passent prioritairement dans vos vies, venez au pied de la croix et dites, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, tu n'es pas la priorité dans ma vie. Et j'en ai rien à cirer de raconter ce que tu fais dans ma vie parce que tu ne fais rien dans ma vie. Je ne vis rien avec toi. Je te demande pardon. Et je sais qu'à la croix, l'image de la croix me rappelle que tu pardonnes à quiconque se présente devant toi et dit, Seigneur, prends-moi tel que je suis. Et Seigneur, fais de moi un enfant à travers qui tu pourras te glorifier. Amen. Je ne suis pas en train de vous raconter des bobards, je suis simplement en train de vous simplifier les paroles de l'apôtre Paul ici. Quand Paul dit aux chrétiens de Philippe d'annoncer l'Évangile, le mot grec pour annoncer, ce n'est pas prêcher. Il est en train de dire, parlez de ce que Jésus fait dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de faire la faculté de théologie pour parler de ce que Jésus a fait dans votre vie et ce qu'il continue à faire dans votre vie. C'est le mot annoncé, c'est ce que ça veut dire ici. Verset 14. Il est difficile aujourd'hui de trouver quelqu'un de vraiment courageux. Et ça me fait penser à une histoire de cette femme et à son mari qui avaient interrompu leurs vacances pour aller chez le dentiste. La femme était pressée, elle dit au dentiste, « Je veux que vous arrachiez cette dent, je ne veux pas que vous endormiez la dent parce que ça presse. Enlevez la dent le plus vite que vous le pouvez, tout sera parfait. » Le dentiste impressionné lui dit, « Madame, vous êtes vraiment une femme courageuse. Quelle dent est-ce? » Et la femme se tourne vers son mari et lui dit, « Chérie, montre-lui la dent qui te fait mal. » Il est facile hein, de s'attendre à ce que les autres soient courageux tant et aussi longtemps que nous n'avons pas besoin, nous, de l'être. Lorsque les croyants de Rome entendirent parler que Paul voyait ses problèmes comme faisant partie du plan de Dieu pour sa vie et comment sa priorité consistait à annoncer l'Évangile, et vous savez ce quel effet que ça a eu? Le diable l'avait peut-être placé en prison pour le décourager, mais ça a eu tout l'effet contraire, ça a boosté, ça a encouragé les chrétiens de Philippe. Paul dit, la plupart, verset 14, « La plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte l'Évangile. » Frères et sœurs, le découragement se répand avec une rapidité mortelle, mais le courage est aussi quelque chose de contagieux. Amen. Ouais. En annonçant l'Évangile aux gardes, les chrétiens reprirent courage. Si Paul pouvait le faire, pourquoi les chrétiens de Philippe ne pouvaient-ils pas le faire? Frères et sœurs, si les chrétiens de Philippe étaient capables de le faire, pourquoi vous ne seriez pas capables de le faire? En Belgique, à moins de frapper un policier, il n'y a pas un chrétien qui va aller en prison pour l'instant. Et même là, vous pouvez initier de la grâce du juge. Très difficile d'envoyer quelqu'un en prison ici. Dans un pays très démocratique, hein? Moi, je pense qu'on a dépassé finalement, ce qu'on appelle une sainte démocratie. Il y a beaucoup trop de droits de l'homme et absolument, on a complètement bafoué les devoirs. Oui, pour moi, je trouve qu'on a dépassé les limites d'une sainte démocratie. On a besoin d'avoir un équilibre, les droits et les devoirs, et ce que c'est la Bible nous dit, hein? Les droits et les devoirs, la loi de Dieu, le gouvernement de Dieu. Hein? Wesley énumérait un jour les outrages que lui infligeait la foule dans ce village d'Osmoterley. Par quel degré, il dit ceci, par quel degré insensible Dieu lui-même ne nous prépare-t-il pas à l'accomplissement de sa volonté? Il y a deux ans, Une brique lancée contre moi meurtrissait mon épaule. Un an après, une grosse pierre m'atteignit entre les yeux. Le mois dernier, je fus de nouveau blessé. Et ce soir, j'ai reçu deux coups. Le premier à mon arrivée dans la ville et l'autre à mon départ. Un homme m'a frappé si violemment que le sang a jailli. Et pourtant, ça, c'est le même caractère que Paul. Hein? Écoutez bien ce qu'il dit. Et pourtant, je suis indemne comme si on m'avait touché qu'avec un brin de paille. Quand je pense aux sacrifices que les missionnaires font à travers le monde et les opportunités qu'ils saisissent pour annoncer l'Évangile, je me demande pourquoi j'hésite souvent à parler de Jésus à mes amis. Et lorsque je pense à ceux qui sont persécutés à cause de leur foi dans le monde, comment puis-je oser garder le silence? Leur foi, frères et sœurs, elle m'aide à ne pas avoir peur. Jésus a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Le diable, il peut te faire seulement ce que Dieu permet qu'il te fasse. Amen. Vous avez besoin d'avoir une conviction dans votre cœur que c'est le cas. Si vous obéissez à la parole, le diable n'a plus aucun pouvoir sur vous, sauf celui que vous lui donnez. Mais ce qu'il peut vous faire, seul Dieu le permet. Et ce que Dieu permet au diable de vous faire, c'est pour l'avancement de votre foi, c'est pour vous faire progresser dans votre connaissance et dans votre foi de la personne de Jésus-Christ. Rapidement, verset 15 à 18. Paul avait la capacité de voir tout à la lumière de ce qui était le plus important. Il pouvait voir ses problèmes comme faisant partie du plan que Dieu avait pour lui. Et il dira, 17-18, la souffrance légère. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, ceux qui ont leur Bible. 2 Corinthiens 4, 17-18. Il dira, 2 Corinthiens 4, 17-18, « La souffrance légère et momentanée que nous éprouvons nous prépare une gloire abondante et éternelle. » Et vous savez pourquoi? Et il dit, « Beaucoup plus importante que cette souffrance. » Et vous savez pourquoi il est capable de dire ça? Regardez la suite du verset. « Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. » Ce qui est visible ne dure que peu de temps, mais ce qui est invisible dure toujours. Frères et sœurs, vous gardez vos yeux sur quoi ce matin? Sur ce qui est visible ou sur ce qui est invisible? Ce qui importait pour Paul, c'est que le message soit annoncé, mais il va beaucoup plus loin que ça. Peu importe l'intention de ceux qu'il prêchait. Ah, lui, il le fait, c'est devenu une profession pour lui, c'est un travail pour lui. Il ramasse de l'argent en prêchant l'Évangile, son problème. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que l'Évangile est prêché. Jésus-Christ est annoncé. Lui, il réglera ses problèmes quand il comparaîtra devant Dieu. Mais ce qui est important pour moi, c'est que l'Évangile est annoncé. Et là, il continue. Dans Philippiens. Verset 15 à 18. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie, par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Et ici, on le sait, hein, certains chrétiens étaient jaloux de Paul. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils étaient en compétition avec lui. Ah, Paul en a sauvé 25, moi, il faut que j'en sauve 30. Ah, Paul a mis sur pied une église, moi, il faut que j'en mette 2. Même Pilate savait que c'était l'envie ou la jalousie qui avait poussé les prêtres à lui livrer Jésus. Matthieu 27, 18. Pilate, un païen, le savait. Il était capable de lire à travers les paroles, de saisir à travers les paroles des prêtres pour quelles raisons ils lui avaient livré Jésus. Par envie, par jalousie, nous dit la parole. Jésus n'avait rien fait de mal. Il leur demande ce qu'ils peuvent lui reprocher. Il dit, ils ne sont pas capables d'ouvrir la bouche, ils sont confondus. Paul continue, ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. D'autres croyants étaient motivés par l'amour et savaient que Paul proclamait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. Il parle de ceux qui voyaient la prédication de l'Évangile encore une fois comme un métier. Et j'aime comment Paul résume sa pensée au verset 18. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. En d'autres mots, Paul est en train de dire, peu importe que leurs intentions soient bonnes ou mauvaises, le Christ est annoncé de toute façon et ça, c'est ce qui fait ma joie. Même si je suis en prison, ça fait ma joie parce que le royaume de Dieu progresse. Et le Seigneur me montre qu'il n'y a pas besoin de moi pour que le royaume de Dieu progresse. Il utilise des gens qui soient motivés, bien motivés ou mal motivés. L'Évangile est quand même prêché. Et moi, eh bien, ça me bénit. Frères et sœurs, en terminant, quand Jésus-Christ se viendra comme roi avec tous ses anges, il s'assiera sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront assemblés. Matthieu 25, les versets 23-40. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui et il séparera les gens. Il vous dira alors, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Les justes lui répondront alors, Seigneur, quand avons-nous vu affamé? Quand avons-nous vu donner à manger? Quand avons-nous donné à manger? Ou assoiffé, t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous accueilli chez nous? Ou nu, et t'avons-nous habillé? Quand, Seigneur, t'avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés te voir? Jésus leur déclara, je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la présence de ton maître. Jacques parle de la foi sans les œuvres, et quelqu'un qui est sauvé sans les œuvres, eh bien, il se baigne dans une illusion évangélique. Parce que la foi, les œuvres confirment la foi en Jésus-Christ. Amen. On ne peut pas rester indifférent à la misère du monde. On n'est pas là pour juger que tel gouvernement passe à côté de la plaque. Le Seigneur nous demande de prier pour nos gouvernements. L'Église, elle est là pour venir en aide aux miséreux de la société. L'Église, elle est là pour dire aux gens qu'ils ont toujours une deuxième chance avec le Seigneur, qu'ils peuvent recommencer leur vie à zéro, une nouvelle vie. Dire, écoute ton passé, Dieu peut l'effacer au complet. C'est terminé. Oublie-le parce que Dieu a oublié ton passé. Et il suffit de venir à la croix pour que du Christ, pour remettre tous vos péchés, vos fardeaux, vos mauvaises actions du passé entre ses mains. Et dire, Seigneur, par ton sang, lave-moi, purifie-moi, efface ça. Et donne-moi un nouveau cœur, Seigneur. Parce que je reconnais que c'est juste à travers toi que je peux être sauvé. Qu'il n'y a pas d'autre moyen pour moi d'aller au ciel. On termine? La deuxième fois que je le dis, c'est à la bonne. Luc chapitre 23, rapidement. Voir 5 minutes. Je ne ferai pas d'appel ce matin, je vais simplement vous laisser avec ce petit passage. Frères et sœurs, c'est le passage sur la croix. Et sur la croix, eh bien, le texte nous dit au chapitre 23 que, verset 33, lorsque Jésus est arrivé au lieu du crâne, eh bien, on le crucifie entre deux malfaiteurs, l'un à gauche, l'autre à droite. Et la première chose que Jésus va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, ils vont partager ses vêtements, ils vont tirer au sort. Et là, le peuple se tenait là, le peuple se moquait d'eux, les magistrats se moquaient d'eux, en disant toutes sortes de choses. Les soldats aussi se moquaient d'eux, verset 36. Se moquaient de lui, pardon. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et il y avait une inscription au-dessus de la croix. L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Frères et sœurs, si vous lisez d'autres passages dans les évangiles, les deux malfaiteurs au début insultent Jésus-Christ. Jésus n'a pas annoncé l'évangile aux deux malfaiteurs. Son témoignage, il est la parole, son témoignage. Probablement que les deux malfaiteurs ont suivi Jésus, en tout cas c'est la position de Charles Spurgeon, étaient présents quand il était devant Pilate. Ils ont vu la réaction de Jésus. Jésus était un témoignage extraordinaire pour ces deux malfaiteurs. Ils l'ont suivi jusqu'à la croix de Golgotha, jusqu'au mont de Golgotha. Là, ils voient Jésus, comment Jésus réagit face à toutes les accusations, les moqueries qui lui sont lancées en pleine figure alors qu'il est sur la croix. Et l'un des malfaiteurs, eh bien, il y a un changement qui se passe dans son cœur. Et on sait que les deux malfaiteurs, qui sont sur la croix, ce sont deux meurtriers, ce sont deux bandits. Ce sont deux gars qui font partie de la mafia de l'époque. Ce sont des gens, probablement, qui ont fait de la prison, mais là, ils sont rendus à la limite, et le gouvernement les condamne à mort. Et là, qu'est-ce qui arrive ici? L'un des malfaiteurs crucifiés, verset 39, l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Voilà ce que la croix nous montre. On mérite tous la mort. » Un malfaiteur, un meurtrier le reconnaît ici. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Et ça, c'est la grâce de Dieu. On mérite la mort à cause, parce qu'on mérite de recevoir la punition pour tous les péchés qu'on a commis. Mais la grâce de Dieu, c'est que Dieu donne ça sur Christ. C'est Christ qui subit la punition à ta place, mon frère, à ma place, ma soeur. À ta place, ma soeur, et à ma place. Et regardez cette prière extraordinaire, elle est courte. Il n'y a pas besoin de mémoriser par cœur ce meurtrier, c'est peut-être même pas lire. Et regardez ce qu'il dit à Jésus. Il dit, verset 41, « Pour nous, il dit à son copain, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit ceci, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Ça veut dire quoi? Il croit à la résurrection des morts puisqu'il dit « Souviens-toi de moi quand tu reviendras. » Il croit que Jésus est le roi des rois, qu'il est le roi des royaumes puisqu'il dit « Quand tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. » Jésus le dit, lui dit « En vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Celui-ci n'a rien fait de mal. Moi, j'ai fait des choses épouvantables dans ma vie. Lui n'a rien fait de mal. C'est ça sa prière. Lui, il est condamné justement. Moi, je mérite ce que j'ai fait. Lui, il n'a rien fait de mal. On n'y trouve aucun péché. Frères et sœurs, vous savez la différence entre les deux malfaiteurs? Il y en a un qui a décidé de mourir dans ses péchés. Il était, regardez bien mes doigts, il était à ça d'entrer au ciel. Il a choisi d'aller vivre en enfer pour l'éternité. L'autre, il était à ça d'aller en enfer. Il a choisi de passer l'éternité au ciel. Les deux ont eu la même chance. Et ce matin, dans cette salle, je ne connais pas l'état de ton cœur, mais ce matin, on a tous la même chance en Jésus-Christ. Et c'est un choix que tu dois faire comme les deux malfaiteurs, mon frère et ma soeur. Soit que tu choisis de passer l'éternité en enfer, ou soit que tu vas choisir de passer l'éternité au ciel. Passer l'éternité en enfer, c'est d'accepter de mourir dans tes péchés. C'est choisir. Alors que Dieu te dit que Jésus-Christ est prêt encore aujourd'hui à prendre sur lui tes péchés. Et que tu reçoives le pardon et la vie éternelle. Amen. Fais courbe nos têtes et fermons les yeux. On va prier en terminant. Seigneur notre Dieu, tu vois dans les cœurs de tous ceux ici qui sont présents ce matin. Seigneur, je sais que tu nous aimes tous d'un amour égal. Je sais, Seigneur, que tu portes fièrement ton Église à bout de bras pour qu'elle puisse être une lumière dans ce monde, un témoignage de la personne de Jésus-Christ ressuscité, crucifié et ressuscité. Et nous attendons son retour avec impatience. Seigneur, tu vois les cœurs ce matin. Tu connais ceux qui t'appartiennent, ceux qui ont vécu cette expérience de la nouvelle naissance. Et Seigneur, je veux simplement que tu parles au cœur de tous ceux et celles qui sont ici ce matin. Il y en a peut-être dans cette salle ce matin qui ont été baptisés depuis des années et qui vivent une vie d'ermite, une vie errante, qui ne vivent rien avec le Seigneur, qui n'ont pas la certitude d'être passés par cette nouvelle naissance. Je vous invite à regarder à la croix ce matin. Et si c'est le cas ce matin, moi je ne juge pas personne, hein, je lance des choses, des idées, si c'est le cas ce matin, mais regarde à la croix et dire, Seigneur, j'ai vécu une religion toute ma vie. Seigneur, je n'ai pas l'impression que tu es vivant dans ma vie. Tu demeures toujours un nom pour moi. Le nom de Jésus, c'est un nom pour moi. Et je voudrais vraiment que tu deviennes une personne vivante. Et Seigneur, ce matin, regardant à la croix, je reconnais que j'ai, si je mourrais aujourd'hui ou demain, je recevrais ce que je mérite pour mes péchés. Et ce matin, Seigneur, eh bien, tout simplement, je viens devant toi pour te demander pardon et te remercier d'avoir pris sur toi ce que je méritais. Et me donner en retour ce que je ne mérite pas, c'est-à-dire le pardon de mes péchés et la vie éternelle. Seigneur, ce matin, je veux prendre un nouveau départ, un véritable départ avec toi. Et je te demande de me libérer, parce que c'est aussi ce que la croix m'apporte. Me libérer, Seigneur, de tout ce qui me tient esclave, qui me tient captif et qui m'empêche de vivre cette liberté que tu nous donnes en Jésus-Christ. Il y a peut-être des gens ici dans cette salle ce matin qui n'ont jamais fait cette prière et qui voudraient prendre un nouveau départ, qui ont peut-être une vie de passé qui est épouvantable, que s'il fallait qu'ils dévoilent tous leurs péchés, toutes leurs mauvaises œuvres, ils en seraient gênés, ils en seraient honteux. Mais je tiens à vous rassurer ce matin. La honte, elle a été portée à la croix. La honte, c'est Jésus-Christ qui l'a subie. Et en retour, eh bien, il veut vous accorder sa grâce ce matin. Il te dit, il parle à ton cœur ce matin, il te dit, écoute, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, il n'y a aucun péché que je ne peux pas pardonner. Alors ouvre-moi ton cœur, accepte que j'ai subi pour toi, à la croix, ce que tu méritais, que j'ai porté tes péchés, et qu'en retour, eh bien, tu bénéficies de la grâce de Dieu. Dieu te gracie ce matin, et il t'accorde son pardon. Et à travers la résurrection, tu peux être certain qu'il y a une vie après la mort, et cette vie après la mort, eh bien, je te la donne aussi ce matin, sur la base de ta foi. Et un jour, quand je reviendrai, eh bien, il y aura la résurrection des morts. Et comme Dieu m'a ramené de la mort à la vie, dit Jésus, de la même manière, un jour, je te ramènerai aussi de la mort à la vie. Ce matin, aie l'assurance dans ton cœur que je suis maintenant vivant parce que tu m'as ouvert la porte de ton cœur et que nous passerons l'éternité ensemble. Vous êtes amen à ça?